Le sfumato, c'est l'estompage des contours qui consiste à effacer la ligne de contour. Et d'autant plus, on effacera que la figure se détache sur un fond sombre. Alors, c'est une technique mise au point, enfin, dont Léonard parle et qui l'intéresse beaucoup. Il n'est pas le seul à s'y intéresser. Antonio de Messine, le peintre sicilien, mais qui s'installe en fait à Venise dans le dernier quart du XVe siècle, en est un autre grand spécialiste. Le principe et la visée, la recherche de Sfumato, on peut le résumer en deux points. Ça vient d'une grande tradition telle que Pline la rapporte, et qui est que la question du contour est la suprême subtilité de la peinture, parce que si le contour est trop visible, il crée une rupture dans l'image, alors que si le contour n'est pas visible, la peinture, et la formule est de Pline, promet même ce qu'elle ne montre pas. Et donc une possibilité de suggestion extraordinaire de la peinture par ce qu'elle cache. Bon, ça c'est d'où ça vient. Et où ça va, hein, la question de Sfumato, quel est l'enjeu de cet intérêt pour Sfumato à la fin du XVe siècle, eh bien, c'est l'idée de suggérer que l'image est vivante. Hein, parce qu'on rejoint le problème de la grâce, dont parle Vasari, qui dit « La grâce, c'est ce qui surgit entre le vu et le non-vu, et que possède les choses vivantes. » Donc le Sfumato, il a cette double valeur, cette double, une double coordonnée autour de Sfumato, la tradition de la question du contour et la recherche de la vie en peinture à la fin du XVe siècle. Dans la peinture de Léonard de Vinci, il y a un point qui, moi, me paraît très important parce qu'on l'a vraiment oublié. C'est le fait que dans la vie que lui consacre Vasari, il dit que, à part la grâce, dont Léonard est un des grands inventeurs au début du XVIe siècle, une des caractéristiques de Léonard, c'est la terribilità de ses concetti, de ses concepts, et aussi des ombres de Léonard. Or, là, c'est très curieux pour un œil ou une oreille contemporaine, parce que pour nous, la terribilità, c'est Michel-Ange. Or, Michel-Ange et Léonard, c'est l'huile et le vinaigre, si j'ose dire. Alors, la grâce, c'est, à nouveau, c'est Vasari qui le dit, c'est une licence dans la règle qui, tout en étant dans la règle, échappe à la règle. Bon, c'est l'idée d'élégance, hein, l'idée de nonchalance du courtisan, c'est la sprezzatura dont on parle aussi, parle le courtisan de Balthazar Castiglione. C'est ce qui apparaît, le dit aussi Vasari, entre le vu et le non-vu, c'est-à-dire ce qui est indistinct et qui est la qualité même de la vie. Bon, c'est ça la grâce. Et la grâce est à la fois un idéal, c'est un mot clé, bien sûr, pour la culture de la Renaissance, parce que c'est un terme religieux, hein, c'est la grâce divine. Et certains artistes ont la grâce du créateur, c'est Vasari qui le dit aussi, donc un terme religieux. Ensuite, c'est un terme social, la grâce, c'est la grâce du courtisan qui sait imiter avec grâce le modèle qu'est le prince. Et puis la grâce, c'est aussi bien sûr un idéal de beauté esthétique, les trois étant intimement liés et inséparables. Ça, alors, c'est la grâce.
Alors comment est-ce que Léonard l'interprète, cette grâce?
Cette grâce, énorme question, énorme question. Ben, il l'interprète d'abord, je dirais, en élaborant un type de figure et humaine, que ce soit masculine ou féminine, précisément esthétiquement gracieuse. Comment vous dire qu'elles sont esthétiquement gracieuses? Bien parce qu'elles prennent, disons, un type de visage déjà mis au point par le Quattrocento et fondé sur la régularité des traits. Et dans cette régularité, on introduit, enfin, Léonard introduit de petits excès. Hein, dans la forme des yeux, dans l'excès de l'ovale du visage, dans le sourire, par exemple, bon, qui sont donc dans la règle, et tout en étant dans la règle, échappent à la règle. Donc ça correspond à ce concept contemporain de grâce. Et puis la grâce, il l'obtient aussi tout simplement par le sfumato. Hein, le bord de la figure qui, selon un grand thème qui remonte à l'Antiquité et à Pline l'Ancien, fait que la peinture promet même ce qu'elle cache. Et donc ça, c'est de la grâce.
(1494, 1495, 1496, 1497) Milan, la Seine, fresque, réfectoire du couvent de Sainte-Marie des Grâces.
La Seine, Leonardo ne représente pas vraiment la Seine dans son idéalité, il représente un moment donné de la Seine. Hein, je crois que c'est le moment où le Christ dit « Celui qui mettra la main au plat en même temps que moi me trahira ». C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, chacun des apôtres se trouve déterminé dans son caractère, non pas de façon transhistorique, les quatre plus grands sont représentés par des animaux symboliques, non pas de façon symbolique, mais de façon humaine et concrète. La scène de Leonardo, c'est une scène qui se passe dans le monde. Elle ne se passe pas dans l'histoire de la religion. Elle se passe, bien sûr, c'est un événement de l'histoire religieuse et de l'histoire des testaments, mais Leonardo choisit d'en accentuer, si je puis dire, le caractère mondain. Non pas le caractère mondain comme va le faire Véronèse, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans son luxe, mais le caractère mondain dans les conflits mondains que la présence de la vérité fait surgir et qui s'inscrit sur chacun des visages et dans chaque attitude. Ce qui fait que l'ensemble du tableau est ordonné par le caractère et les attitudes répondant au caractère de chacun des apôtres. On a donc une sorte de partition formelle justifiée par l'intelligence et la capacité et le savoir qu'a Leonardo de représenter un caractère.
Léonard de Vinci, lui, est le premier à mettre Judas avec les apôtres, le premier à la fin du XVe siècle. Il y avait quelques exemples auparavant, mais dans une problématique tout à fait différente. Il met Judas parmi les apôtres. Alors nous reconnaissons Judas, bien sûr, puisqu'il est accoudé, il se retire loin du Christ et il a la bourse à la main. Donc c'est bien Judas. Simplement, il est beaucoup moins immédiatement visible. En fait, ce que Léonard de Vinci a inventé, entre autres choses, que la fresque contient énormément de choses à dire, mais entre autres choses, il a inventé la figuration du traître. C'est-à-dire comment représenter quelqu'un qui se cache. Et comme par hasard, cette figuration du traître, elle touche également au fait de la dissimulation. Et alors, Judas, c'est la dissimulation malhonnête, mais Léonard de Vinci, dans l'ensemble de sa vie, c'est l'honnête dissimulation, telle que le dira le traité de savoir-vivre du XVIIe siècle.